Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur Développe ton zeste, le podcast pour transformer ton style de leadership et ton management. Je suis Martine Chaillet, coach de manager d'équipe et d'organisation, cofondatrice de E-Rise Coaching et membre de Hello Coaching. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Frédéric Hivernel. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Alors Frédéric, vous êtes président d'une société de conseil et vous avez derrière vous 35 ans d'une vie professionnelle dans des grands groupes, hein, TFA, Bouygues, mais aussi dans une PME, le Théâtre du Châtelet, avec différentes fonctions RH, communication, direction générale. C'est tout bon pour l'instant?
C'est tout bon, vous avez coché toutes les cases.
J'ai coché toutes les cases, super. Et aujourd'hui, vous êtes auteur et conférencier hein, sur différents thèmes autour du management, de la communication et des RH.
Absolument.
Et nous allons parler d'un vaste sujet aujourd'hui sur comment traverser une vie professionnelle et ses ruptures. Et je commencerai par une question, du coup, Frédéric, sur puisqu'on a préparé bien sûr ce podcast, hein, et vous me parlez d'une fiction d'une vie professionnelle linéaire. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus?
Oui, bah, c'est-à-dire que depuis que nous sommes tout jeunes, on nous a vendu et on nous vend encore d'ailleurs l'idée d'une carrière linéaire, d'une carrière sans accroc, d'une carrière qui démarre et qui s'achève après
Lisse.
un certain nombre de rebondissements. Mais en tout
lisse
cas,
et
quelque
vers
chose
le
de
haut.
relativement lisse. Et le premier quiproquo, en fait, notamment avec la génération X, elle démarre là. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de carrière linéaire possible. Une carrière, c'est nécessairement un équilibre en fait instable. Et ce qui trouble beaucoup les gens, c'est que lorsque des ruptures surviennent, alors qu'on est dans cette compréhension de la stabilité professionnelle, là, on est dans un frottement qui est extrêmement déroutant, épuisant pour les gens et psychologiquement douloureux. Or, une carrière, elle induit par elle-même, dans sa durée d'abord, parce que c'est 45 ans une carrière professionnelle aujourd'hui, et ensuite dans sa construction, parce qu'on est dans une quête d'apprentissage permanente, elle induit elle-même l'idée de la rupture. Et si on n'intègre pas ça comme étant une constante, le jour où cette rupture-là survient, effectivement, on est terriblement déstabilisé. Moi, j'ai l'habitude de dire, par exemple, qu'il faut intégrer, dès lors qu'on commence à travailler, l'idée qu'un jour, on sera licencié. Alors, vous allez me dire, ben, c'est quand même extraordinairement pessimiste. Non, c'est au contraire très réaliste, parce que effectivement, un jour, on sera licencié. Il n'y a pas un collaborateur aujourd'hui qui peut démarrer dans une boîte en se disant que jamais un événement comme celui-là ne surviendra.
Bah,
Et le fait de
licencié ou
l'intégrer
départ
comme
ou
une
démission, en
constante,
fait.
oui, mais le fait de l'intégrer comme une constante fait que le jour où cet événement survient, il est beaucoup plus facile à vivre. Donc moi, je pense que il faut balayer l'idée de la carrière linéaire, ou alors il faut intégrer le fait qu'une carrière linéaire, c'est une succession de moments qui viennent les uns et les autres s'enchaîner après ou avant des ruptures.
Donc la génération X, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vous et moi, Frédéric, mais
Oui,
c'est
c'est ça.
65-80.
Les plus anciens, c'est les plus anciens.
Et du coup, on parle de rupture. On a pas mal parlé de rupture dans la préparation. C'est quoi ces ruptures? Est-ce qu'il y a des ruptures qu'on voit, des ruptures qu'on voit moins et dont on parle moins?
Oui, parce que quand on parle d'une rupture dans une vie professionnelle, on a grosso modo en tête des choses qui sont inscrites dans le CV. Une prise de poste, par exemple, est une rupture au sens où on passe d'un univers connu à un univers inconnu. Mais dans les ruptures classiques et visibles, il y a la promotion qui pose un certain nombre de questions sur notre capacité à nous-mêmes à finalement embrasser un spectre plus large ou à manager davantage d'équipes. C'est le cas des prises de responsabilité élargies, qui remettent aussi en question des savoirs ou des acquis. Et puis, il y en a bien d'autres qui sont un peu exogènes. Une réorganisation, par exemple, dans une entreprise, va créer un mini-séisme au niveau de chacun d'entre nous et nous remettre effectivement dans une dynamique différente. Il en va de même d'un changement de direction, par exemple. Vous changez de patron, vos habitudes sont brisées, vous devez vous rétablir dans un comportement relationnel, dans une façon d'apprécier et de voir les choses. On peut considérer que c'est une rupture. Alors évidemment, il y en a encore plus visibles. Un licenciement, c'est une rupture. Une reconversion professionnelle, c'en est une autre. Une démission, une troisième. Donc il y a tout ce qu'on imagine et ce que l'on voit qui peut être constitutif de la rupture traditionnelle. C'est ce qu'on inscrit dans son CV finalement. Mais
Donc ça, c'est
ça,
ce qui est visible en fait, hein, les
oui, c'est ce qui est
ruptures
visible, et
visibles.
puis c'est ce qui nous arrive à tous, et puis c'est daté, c'est officiel, ça figure dans votre CV, c'est quelque chose auquel nous sommes tous confrontés. Mais moi, ce qui me trouble dans la rupture, c'est pas ce que l'on voit en fait. C'est ce que l'on pourrait appeler les ruptures, disons, invisibles, les signaux invisibles, qui sont des vraies bascules. Alors, vous allez me dire, bah, c'est quoi un signal invisible? Bah, quand on regarde nos propres parcours ou ceux de nos proches, on se rend bien compte qu'il y a des signaux qui sont cette fois-ci intérieurs. Les fatigues chroniques, par exemple, au boulot. Les fatigues qui ne passent plus, qui ne sont pas liées à des surcharges ponctuelles, mais qui sont liées à des usures de fond, en fait. On peut considérer que ce sont des ruptures.
Les
Même...
usures de fond, c'est plus de sens,
Oui, c'est le fait
un
de ne plus savoir
désaccord
pourquoi. Oui, c'est le fait de ne plus savoir
permanent.
pourquoi on se lève le matin et pourquoi on va bosser. D'autres ruptures, c'est par exemple le cynisme qui remplace l'enthousiasme du début. Où on commente plus ce qui se passe que l'on construit dans l'environnement dans lequel on est. Défendre son poste, par exemple. Adopter une position de combattant dans sa fonction, plutôt que de défendre ses idées, c'est aussi une autre façon de voir la rupture, qui signifierait qu'on protège davantage son territoire plutôt que de porter un projet, par exemple. La perte d'élan. Une autre façon de vivre des bascules intérieures. Hein. On exécute correctement sa tâche, mais on ne crée plus. C'est les salariés, entre guillemets, désengagés. Moi, je suis très frappé par les statistiques que l'on commet très habituellement, qui nous disent que 90% des salariés français sont désengagés au travail. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas leur boulot. Ça veut dire que ils se lèvent le matin. Et ils arrivent au travail en se disant que la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont le quitter le soir. Entre ces deux bornes, ils bossent, mais pas davantage qu'il ne le faut pour prendre du plaisir, pour créer, pour s'émanciper. Donc les gens désengagés représentent l'immense majorité aujourd'hui des salariés français. Or, il n'y a pas un DRH qui va embaucher un type désengagé au départ. Il n'y a pas un DRH qui va se dire, tiens, je vais faire que ce collaborateur-là, dans 5 ans, soit stressé. Or, 50% des Français, des collaborateurs français sont stressés au travail. 50%. Donc, si vous êtes deux à bosser, ça veut dire
Ce qui est un
que...
peu logique si on a perdu le sens, l'élan, qu'on se dit quand on arrive,
Oui, mais
déjà on
vous
y va
avez
avec
un
des bleus au
salarié.
pied.
Vous avez raison, mais vous avez un salarié sur deux qui se lève le matin avec la boule au ventre.
Oui,
Un sur deux.
c'est énorme.
Alors que, dans le fond, beaucoup d'entre nous ont choisi l'entreprise d'accueil, ont choisi leur parcours professionnel. Donc, quand vous cumulez un désengagement très profond, un stress majeur, et que vous rajoutez à ça que 80% aujourd'hui des étudiants ont fait un choix d'études qui ne correspond pas à leur envie profonde, vous avez effectivement une espèce de rupture invisible, de bascule psychologique qui fait qu'en fait le rapport au travail est extrêmement douloureux. Donc il y a évidemment ce que l'on voit et puis il y a ce que l'on ressent soi-même. Et ce que l'on ressent soi-même, donc ces ruptures intérieures, disons, créent quand même un passage direct vers la dépression professionnelle, le désengagement, le burn-out parfois. Et c'est à cela qu'il faut être vigilant. Donc on a parlé des ruptures concrètes, des ruptures invisibles, et puis il y a pour moi un troisième élément qui est celui lié aux signaux, cette fois-ci extérieurs, qui précèdent une éventuelle rupture. Et là, c'est ce que l'entreprise vous renvoie en fait. Alors, quand vous êtes, et vous en rendez compte assez vite, un peu moins consulté sur des sujets stratégiques, par exemple dans les réunions, quand vous voyez bien que justement dans ces réunions, l'énergie change un peu de camp, que vous êtes moins sollicité, ou que des alliances autour de vous évoluent, mais sans vous, eh ben, vous êtes dans une appréciation des choses qui précède une éventuelle rupture à venir. Donc moi, je pense qu'il y a des choses inhérentes à la vie professionnelle, et il faut les accepter. Il y a des signes que l'on peut ressentir, et il faut être sur ces sujets extraordinairement attentif à son corps et à sa psychologie. Et puis enfin, des signes extérieurs dans l'entreprise qui peuvent nous laisser sentir que quelque chose se déroule qui ne va pas forcément dans le bon sens, en tout cas pour nous.
Et donc plusieurs ruptures à la limite, enfin c'est pas à la limite, hein, celles qu'on voit sont pas les plus importantes en tout cas, c'est
En tout
ce
cas, elle
qu'on
se gère.
retiendrait en tout cas,
Elle se
elles
gère.
se gèrent tout à fait. Et ça m'amène à une question, c'est pourquoi est-ce que ces moments qui peuvent être qualifiés de crise hein, sont si difficiles à vivre, voire même parfois à voir, enfin, en tout cas, c'est comme si, dans ceux que j'accompagne, en tout cas, c'est le cas, hein, certains, en fait, voient les signes, mais ne les intègrent pas, ou ils se disent, mais non, c'est peut-être temporaire, etc., etc. Pourquoi est-ce que ces signes, parfois, sont difficiles à accueillir, et à prendre en compte, et à vivre, ensuite, d'après vous,
Moi,
Frédéric?
je lance quelques hypothèses, hein, mais la première, c'est que comme on ne nous a pas dit que ça allait arriver, le jour où ça survient, effectivement, c'est extrêmement déstabilisant. Et moi, dans les enseignements que je transmets aux plus jeunes, il y a cette idée permanente de dire qu'une vie professionnelle, c'est une succession de moments, qu'il y a des moments où ça va, des moments où ça va moins bien, des moments où on est en forme, des moments où on s'en sent mal, des moments où on est à la mode, des moments où on est justement démodé. Et que tout ça n'est pas très grave si on comprend bien que les rebonds sont possibles à l'issue de chacun de ces moments-là. Penser la carrière comme une espèce de long fleuve est une anomalie, en fait. Hein, la carrière, c'est une succession de moments. Ça, c'est un premier élément, je pense. Le deuxième, c'est que dès qu'on est en difficulté professionnelle, on touche, dans le fond, à notre identité. Parce que chacun d'entre nous a tendance à confondre sa responsabilité au travail et ce qu'il est. Alors dès que l'on remet en question sa responsabilité professionnelle, on a le sentiment que l'on remet en question notre personnalité propre, en fait. Et donc ça, c'est un élément qui balaye effectivement les réflexions qu'on peut avoir sur sa propre valeur, sur son rôle. Il y a un autre élément. C'est que le statut social est une protection, en fait. Regardez, et même pour les plus jeunes, alors la génération Z, donc vraiment ceux qui démarrent aujourd'hui leur vie professionnelle, la première question que vous posez à quelqu'un lorsque vous le rencontrez et que vous ne le connaissez pas, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et la réponse n'est pas bah, j'aime bien faire du foot. La réponse est je suis en master RH, je travaille depuis 5 ans chez L'Oréal ou que sais-je. Donc en fait, le rapport au travail, dont on dit par exemple pour les plus jeunes qu'il est un peu distendu, reste omniprésent. Donc le jour où effectivement on est dans une situation inconfortable professionnellement, on a le sentiment que notre reconnaissance sociale, notre statut social vole en éclats. Et donc on n'est plus protégé. Voilà, et puis y a un autre élément enfin, c'est que... Reconnaître qu'on perd de l'élan, reconnaître qu'on n'est plus tout à fait dans le coup, c'est extrêmement difficile. Moi, j'avais un prof dans mes années d'études qui disait quelque chose qui m'a marqué et que je trouve extraordinairement déroutant, en fait. Il nous disait, tant que votre patron est plus âgé que vous, vous n'avez pas loupé votre carrière. Et donc, il a élevé des générations entières de cadres sur cette idée-là. Tant que votre patron n'est pas plus âgé que vous, vous n'avez pas loupé votre carrière. Et bien, le jour où vous êtes dirigé par un mec qui est plus jeune, là, vous vous dites que vous êtes passé à côté du train, quoi. Et c'est déstabilisant aussi. Moi, je pense que
Ce
l'inconfort,
qui
pour reprendre le
est
terme que
aujourd'hui
vous
une
citez,
croyance, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de générations Y aujourd'hui qui viennent manager des générations X.
mais oui, parce que Le talent, c'est pas seulement de savoir.
Ouais.
Le talent, il peut être reconnu aussi à quelqu'un qui a des qualités relationnelles tout à fait exceptionnelles, une capacité à tisser un réseau, des idées iconoclastes. Enfin, bon, c'est naturel, c'est normal que les organisations et les organigrammes changent, quel que soit l'âge. Et puis d'ailleurs, tout le mouvement, notamment dans la sphère publique qu'on voit depuis quelques années, il est révélateur. Un premier ministre de 30 ans, ça ne pouvait pas exister il y a 25 ans en arrière.
Bien sûr.
Aujourd'hui, un premier ministre de 40 ans, c'est déjà extraordinairement iconoclaste par rapport à ce qu'ont fait des générations et des générations de politiques. Donc des jeunes qui accèdent au pouvoir, ce n'est pas une anomalie. Il faut l'accepter. Parce que ces gens-là ont peut-être une surface, des qualités que nous n'avons pas. Et ce n'est pas très grave. Simplement, dès lors qu'on a le sentiment d'être un peu en retrait par rapport à d'autres, on se retrouve effectivement dans une situation d'inconfort. Alors qu'en fait, il faut l'accepter. Si on l'accepte, les choses sont bien vécues. Mais je voudrais rajouter un truc sur le thème de l'inconfort que vous avez évoqué tout à l'heure. L'inconfort, pour moi, c'est absolument pas grave, c'est même une chance. L'inconfort, c'est un signal qui nécessite un ajustement. Or, pour éviter les ruptures, mais alors cette fois-ci visibles qu'on évoquait en préambule, il faut réussir effectivement à sentir les choses. Quand on n'est plus dans sa zone de confort, ça veut dire qu'on est quelque part où on va être obligé d'apprendre, de se remettre en question, d'avoir d'autres idées, de changer nos comportements. Parce que si on reste dans sa zone de confort, alors que le monde, lui, continue à avancer, on est dans un système où on finit par très bien travailler dans un monde qui n'existe plus. Donc qu'est-ce qui se passe quand on travaille très bien dans un monde qui n'existe plus? Eh bien, à un moment donné, la rupture est inévitable, en fait.
J'aime
Donc,
bien.
il faut
Oui,
vivre
c'est
ces
ça.
moments autant qu'on le peut avec discernement et distanciation. C'est
Frédéric,
dur.
oui, c'est pas facile. Est-ce que vous pensez, ça m'est venu là quand en vous entendant parler, mais est-ce que vous observez en tout cas que c'est plus compliqué pour certaines générations que pour d'autres, justement, ces ruptures? Donc, alors juste, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas génération X 65-80, génération Y 80-95, génération Z 96-2010, les alphas, on les a pas encore sur le marché. Mais est-ce que de ce que vous avez observé, est-ce qu'il y a des générations pour qui ça serait peut-être plus facile, cette notion de non-linéarité, de rupture, d'être OK avec les ruptures finalement, hein,
Oui, alors on pense spontanément aux plus jeunes, c'est-à-dire que ceux qui ont 25 ans aujourd'hui et puis qui arrivent sur le marché du travail donnent le sentiment en tout cas que la loyauté ou la fidélité à une organisation n'est pas dans le domaine de leurs premières valeurs. Donc ils peuvent se dire qu'effectivement les ruptures lorsqu'elles vont arriver seront gérées de façon astucieuse. Moi je suis qu'à moitié convaincu de ça, je forme des générations et des générations les unes derrière les autres depuis maintenant 15 ans et ce dont je me rends compte, c'est que, et c'est plutôt une bonne nouvelle, la bonne nouvelle avec les jeunes, c'est qu'ils vieillissent. Et quand ils vieillissent, et donc quand ils se retrouvent en responsabilité, à titre personnel, avec une famille, un crédit, un appartement, ou à titre professionnel, leur rapport à la rupture change. Donc effectivement, ils semblent aujourd'hui très libérés de cette contingence-là. Je ne suis pas convaincu que dans 15 ou 20 ans, ils le soient encore. Moi, ceux qui, évidemment, souffrent le plus des ruptures, c'est la génération X, même la génération Y, qui ont eu un rapport presque sacrificiel au travail, en
Tout à
fait,
fait.
en s'inventant des responsabilités telles que rentrer chez soi tôt était presque inenvisageable, prendre ses jours de vacances difficiles et s'arrêter lorsqu'on a une mauvaise grippe impossible. Et donc, évidemment, quand on a tout sacrifié, en tout cas dans son esprit, à une entreprise, et que un jour elle vous convie à la grille du parc, comme on dit, bah c'est un monde qui s'effondre. Et donc ça, c'est extraordinairement compliqué à vivre. Et d'ailleurs, dans les cabinets de haut de placement, on croise tout un tas de gens de 45, 50 ou 55 ans qui n'arrivent pas à se remettre d'une rupture, qui n'arrivent pas à se remettre d'un licenciement ou d'un départ contraint, parce qu'en fait, ils cherchent une explication. On ne peut pas imaginer, quand on a sacrifié sa vie à une entreprise, que cette décision est irrationnelle. Elle est nécessairement portée par quelque chose. Et donc les gens cherchent une raison objective à un départ catastrophique. La réalité, c'est que c'est irrationnel. La réalité, c'est qu'on ne maîtrise pas tout dans une vie professionnelle. Bien travailler ne suffit pas, en fait. Il faut bien travailler, il faut avoir un réseau, il faut avoir le sens politique adéquat, il faut partager les valeurs de la boîte, et par ailleurs, il faut résister aux événements exogènes, donc aux crises, aux réorganisations et aux retournements de marché. Donc les ruptures, elles sont rarement liées à des faits absolument rationnels. Or, ces gens-là cherchent ça. Les plus jeunes, eux, ont cette liberté pour l'instant de penser que de toute façon, 3-4 ans dans une même boîte est suffisant et qu'après, il faudra aller voir ailleurs. Mais les plus jeunes, ils sont dans des a priori qui, moi, me semblent tout à fait rocambolesques. Je vous en cite un. Quand vous posez la question à une jeune génération en master, hein, les gens qui sont en bac plus 5, de savoir quel est le contrat qu'ils veulent, qu'on leur propose pour démarrer leur vie professionnelle, ils vous répondent tous le CDD. Alors, vous dites, pourquoi le CDD? Ils disent, parce qu'avec le CDD, on est libre. On est libre, on sait quand ça commence, on sait quand ça se termine. Le CDD, c'est le contrat le plus rigide du droit français. La meilleure réponse à la liberté, c'est le CDI. Et en fait, il fonctionne dans un monde qui est un monde où, dans l'école, on ne leur apprend pas l'entreprise. Donc, ils n'en ont pas les codes. Donc, ils se disent, bah, ouais, le CDD, c'est formidable. Bah, non, en fait. Le CDD, c'est le pire des contrats pour un jeune qui veut rester libre. Donc, il y a comme ça, pour les plus anciens, un sens sacrificiel qui les a conduits à une loyauté terrible à l'égard de l'entreprise. Et pour les plus jeunes, des idées reçues qui les mettent dans une situation difficile. J'ajoute juste une chose sur la génération Z, c'est que si on la dit impatiente, c'est que c'est parce que c'est probablement la première génération à être confrontée à la finitude du monde. Et quand vous imaginez effectivement que le monde risque de s'arrêter, vous voulez tout tout de suite. Et donc ils ont
Ouais, tout à
raison
fait.
de vouloir très vite des responsabilités, ils ont raison de vouloir tout de suite de l'argent. Moi, je fais partie d'une génération où on m'a dit lorsque j'ai commencé à travailler, on te paye 100, mais tu verras, quand on aura vu ce que tu vaux, tu seras à 120. Ben maintenant, les jeunes, ils disent, ben non, moi, je veux 120. Et ils ont raison, parce que l'entreprise a aussi, je pense, marqué le pas par rapport à une nécessaire valorisation des individus qui la composent, quoi. Donc, moi, pour conclure ce petit chapitre, moi, je pense que le vrai problème, c'est pas la crise, c'est pas le licenciement. Le vrai problème auquel nous sommes confrontés pour beaucoup de collaborateurs, c'est l'inertie, en fait. C'est le fait de rester trop longtemps dans le décalage entre ce que l'on pense faire et ce que la réalité du marché nous demande d'être.
Tout à fait. Et du coup,
La peur d'après.
on a des gens en souffrance. Moi, j'ai des gens qui me disent, oh ben moi, j'attends la retraite, ok, et il y a combien de temps avant la retraite? 10 ans. Et là, je me dis, ouf!
Mais qu'est-ce que ça signifie, ça, Martine? Ça signifie qu'on a des entreprises qui produisent du malheur, en fait.
Ah ben, de la
Vous avez des
souffrance, en tout
entreprises qui
cas, c'est
produisent du
clair.
désengagement. Des entreprises qui produisent du désengagement. Parce que quand vous regardez la jeune génération, elle est plutôt heureuse de se lancer dans le monde des affaires. Qu'est-ce qui fait que sur 40 ans de vie, on finit par, alors qu'on a démarré heureux, réclamer au plus vite la fin de la vie professionnelle? Alors que l'entreprise est un lieu d'inclusion, alors que l'entreprise est un lieu de relation, alors qu'on y croise des gens formidables, alors qu'on porte des projets qui peuvent être extraordinairement valorisants pour chacun d'entre nous. Mais à la fin du fin, comme on dit, 80% des gens sont désengagés, 80% des gens se disent vivement la retraite. Enfin bon, je peux le comprendre pour ceux et celles d'entre nous qui ont des métiers pénibles, mais pour une génération de col blanc, c'est quand même complètement fou de se dire que ce qu'il y a de mieux dans la vie, c'est de ne rien faire, alors que quand on est dans une boîte, on croise tout un tas de gens qu'on ne voit plus jamais lorsqu'on arrête de travailler. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce n'est pas les gens qui sont à remettre en question, c'est le système de l'entreprise en général. Moi, je comprends que les gens disent on a marre de la boîte, on en a marre. Ça ne veut
Du
pas dire qu'ils veulent
coup,
la fuir. Ça veut dire
qu'est-ce
qu'il faut
que...
changer la donne.
Du coup, enfin, j'ai bien ma petite idée en vous posant cette question, Frédéric, mais qu'est-ce qui se passe pour... Moi, j'en ai vu hein, des gens qui sont là, qui évitent depuis même des années et des années la rupture. C'est-à-dire qu'ils sont dans la rupture, mais en étant dans l'illusion qu'ils ne le sont pas. Qu'est-ce qui se passe si on évite justement la rupture, si on fait tout pour rester dans, bah, ce que vous disiez, dans le monde qui n'existe plus.
Écoutez, enfin, soit vous êtes un patineur, un danseur sur glace, et vous savez éviter les ruptures toute votre vie professionnelle, donc pendant 45 ans, en prenant des angles, des virages qui vous permettent de sortir d'ornières dans lesquelles d'autres sombrent. Et en fait, votre vie professionnelle devient une espèce de stratégie de survie, mais dans une stratégie de survie, on est rarement heureux, on est rarement épanoui. C'est-à-dire que ce qui nous fait tenir, c'est juste l'idée que le lendemain, le soleil se lèvera encore. Donc il y a des gens qui fonctionnent comme ça, hein. Il y a des gens qui sont capables de tout éviter tout le temps, et plutôt que de créer, de passer leur temps à se poser la question de savoir comment ils vont éviter effectivement la pluie. Bon, il y a ces gens-là. À côté de ça, il y a des gens qui ne voient rien et qui se prennent de façon très brutale le mur. Ce sont ceux qu'on évoquait tout à l'heure, qu'on retrouve dans les cabinets de haut placement. À la fois déconsidéré, dévalorisé et extrêmement inquiet de l'avenir. Et puis au milieu de ça, il y a des gens qui peuvent décider de piloter leur vie professionnelle. Bah, quand on se dit qu'un salarié sur deux est dans une situation de stress très inconfortable en entreprise, on pourrait se dire, même si tout ça est trop rapidement évoqué évidemment, que dans ce cas de figure-là, il faut reprendre le contrôle de son destin professionnel et prendre les décisions qui s'imposent. Enfin, on ne peut pas aujourd'hui, compte tenu du fait qu'on passe 40% de notre temps éveillé au travail, 40% de notre temps éveillé au travail, on ne peut pas se dire que ce temps-là, on va juste faire en sorte qu'il nous permette d'éviter de prendre des portes ou des murs. Enfin, on doit trouver du plaisir dans sa vie professionnelle. Il y a des gens qui sont heureux professionnellement. Ceux qui sont heureux professionnellement, ce sont ceux qui pilotent leur vie. Piloter sa vie, ça veut dire prendre des décisions, parfois radicales, à des moments cruciaux. Par exemple, et là c'est une question que je pose à tout le monde, est-ce qu'il vaut mieux chercher du travail lorsque l'on est en poste ou chercher du boulot lorsqu'on y est acculé? Est-ce qu'il vaut mieux essayer de changer de fonction lorsque l'on s'en sent bien ou est-ce qu'il faut changer de fonction lorsqu'on nous l'impose? Enfin, à ces deux questions, les réponses sont évidentes. Il faut chercher du boulot quand on se sent bien et quand on est fort. Ça signifie qu'il faut quitter son entreprise quand ça va bien. Et ça, c'est un signal absolument contradictoire pour tout le monde. Parce que quand on va bien, en fait, on cherche à préserver cette zone de bien-être. Toute notre vie, on construit un projet pour qu'à un moment donné, effectivement, on soit bien dans sa fonction. Et puis le jour où on est bien dans sa fonction, dans le fond, il faudrait changer. Donc se remettre en question, repartir au combat, réapprendre des relations avec des collègues qu'on ne connaît pas, etc. Et bien pourtant, ça, c'est une condition de survie. Ceux qui s'effondrent sont ceux qui restent, qui restent, qui restent. Et quoi qu'il arrive, quel que soit l'environnement, et souvent dans une espèce de malheur professionnel qu'on ne peut pas leur envier.
Donc en fait, si je résume, du coup, parce que la question était comment est-ce que je traverse ma vie pro avec toutes ces ruptures, si je résume un peu ce qu'on a vu jusque-là, c'est un, déjà accepter au démarrage. C'est vraiment une autre vision de la vie, que la vie professionnelle, de toute façon, elle ne sera pas linéaire. Il y aura des ruptures. Les ruptures, il y en a qui se voient, il y en a qui ne se voient pas. Hein, mais déjà, accepter ça. Deuxièmement, faire attention à tout ce qui est signaux faibles, hein, de ce que nous dit notre corps, notre énergie, notre élan, notre engagement. Nos signaux faibles à nous, mais aussi les signaux faibles qui nous sont renvoyés par l'entreprise pour savoir si est-ce qu'on est toujours en phase. S'il y a des choses sur lesquelles, quoi qu'on donne, qui qu'on soit, qui sont en dehors de notre contrôle en tout cas. Hein, donc quand on n'est plus phasé, faire attention à ça. Et puis ce que vous disiez, Frédéric, reprendre en main finalement notre vie professionnelle en se disant, avant, quand on est au sommet, avant que ça commence à se dégrader, en fait se dire, eh bien, ok, là peut-être que je suis à un tournant. C'est une rupture, peut-être que je suis à un tournant. Donc le tournant, c'est pour éviter de s'effondrer. Hein. Quel tournant j'ai envie de prendre pour continuer à construire finalement ma vie professionnelle? Est-ce que ça serait ça, le comment traverser les crises? Et puis vous avez dit quelque chose d'hyper intéressant, c'est la rupture, la crise, c'est aussi une opportunité. Hein. C'est aussi l'opportunité de rebondir.
Oui, alors pour répondre à votre première interrogation, oui, je partage le résumé que vous venez de faire. Moi, j'ai une façon de résumer ça qui pourrait être de dire que l'entreprise valorise la fidélité
Oui.
quand le marché du travail valorise l'adaptabilité. Et une fois qu'on a intégré ce psaume finalement dans son fonctionnement quotidien, on comprend que la mobilité interne à tout crin, à tout va, toute sa vie professionnelle dans un même groupe, c'est une erreur stratégique. On comprend que l'adaptation est en fait est un élément plus fort pour une entreprise que la compétence instantanée. Dans un monde qui évolue à toute vitesse, en fait, ce que cherche un employeur, c'est quelqu'un qui soit capable de suivre ce mouvement-là et non pas quelqu'un qui sache faire quelque chose à un instant T. Le savoir brut, en fait, il disparaît très vite. Quand on pose la question aux instituts de sondage, de savoir combien de temps dure une compétence technique, les hard skills. Si on vous place dans une grotte, en gros, pendant 3 ans sans lumière et sans téléphone, au bout de 3 ans, vous ne savez plus rien.
Ah
Plus rien. Vous ne savez plus utiliser votre téléphone parce que les logiciels ont changé, vous ne savez plus
oui.
allumer votre ordinateur parce que les modalités ont été très évolutives, vous ne savez plus gérer un plan comptable parce que les normes ont évolué, enfin bon, bref, vous ne savez plus rien. Donc en fait, ce qu'une entreprise cherche, c'est plus des gens qui sont capables d'apprendre et de s'adapter que des gens qui savent. Parce que le savoir, de toute façon, lui, il s'érode à une vitesse folle. C'est pour ça qu'on nous rebat les oreilles avec la problématique des soft skills. Donc, souvenez-vous de ça. L'entreprise valorise la fidélité. Elle fait tout pour vous garder avec des systèmes d'augmentation différés, avec des propositions de mobilité lorsque vous vous essorez. Alors que le marché, lui, valorise l'adaptabilité. Ça veut dire qu'effectivement, il faut changer quand ça va bien. L'entreprise n'est pas loyale à votre égard. Il n'y a aucune raison que vous le soyez à son égard à elle. Aucune. Et en fait, c'est beaucoup plus facile de trouver du boulot quand on en a, et c'est beaucoup plus intelligent de se mettre sur le marché de l'emploi quand on va bien. Par ailleurs, changer d'univers, ça fait un bien fou. On se reconstruit, on se réoxygène, on rencontre des gens très différents, on se recrée des réseaux et de plus en plus importants, on côtoie des types auxquels on ne songeait pas. Enfin, bon, bref, c'est un exercice de régénérescence, en fait. Donc, changer, c'est pas abandonner, c'est renforcer un univers dans lequel on peut, avec sérénité, évoluer dans l'avenir. Moi, je crois beaucoup à la force du réseau. Le réseau, vous ne l'avez pas lorsque vous restez dans un grand groupe très longtemps. C'est pas vrai. Le réseau, il vient d'un quotidien que vous partagez avec des gens dans différentes entreprises.
Frédéric, des ruptures, vous en avez eu, vous, hein, vous avez aussi évolué dans des grands groupes, on a vu.
Oui.
Quelle était peut-être la rupture la plus compliquée que vous pouvez partager? Et qu'est-ce que vous auriez, et on finira peut-être là-dessus, qu'est-ce que vous auriez aimé savoir à ce moment-là, et que vous pouvez partager peut-être avec nos auditeurs, peut-être un warning ou je sais pas, un
Oui,
des
ben moi je
tips
pense qu'il y a,
concrets.
ouais, ben il y a un élément, il y a un élément, moi que j'aurais aimé qu'on me dise plus tôt, plus vite, c'est qu'on ne contrôle pas tout en fait.
C'est ça qui a été
C'est
le plus
que
compliqué
travailler
pour vous?
bien, ouais,
Ouais.
travailler bien, être sympa avec les gens, être respectueux des valeurs de son entreprise, être engagé autant qu'on le peut, ne signifie pas pour autant que vous ne serez pas confronté à une difficulté professionnelle majeure. Parce qu'il y a d'autres éléments qui se jouent. Et une fois qu'on a intégré effectivement qu'on ne contrôle pas tout, on ne contrôle pas un plan de licenciement collectif, on ne contrôle pas l'humeur d'un patron qui change, on ne contrôle pas des alliances managériales qui se retournent contre vous. Une fois qu'on a compris ça et qu'on se dit qu'on doit être vigilant à ces éléments, ressentir ses propres émotions, être fidèle à soi-même, on recommence à piloter sa carrière. Moi, j'ai été confronté à ça, comme tout un chacun, j'ai été confronté à un licenciement à un moment donné et j'ai mis du temps à comprendre pourquoi c'était arrivé en fait. Parce que je faisais partie de ces gens, pardonnez-moi de ce terme, un peu exemplaires en fait. Exemplaires au sens où j'étais toujours présent, toujours là quand il le fallait, toujours en soutien. Mais c'est pas ça en fait, la vie professionnelle. C'est pas parce que vous êtes comme ça que rien ne vous arrive. Moi j'ai côtoyé ensuite dans des cabinets de placement des gens qui continuait à ressasser ce moment de rupture, continuait à se dire qu'il était injuste, et puis se posait la question de savoir pourquoi c'était arrivé, comme s'ils n'avaient rien su anticiper. Et c'est ça le plus terrible. Dans les cabinets de placement, vous croisez des gens qui n'ont rien anticipé. Alors que quand rien ne vous est arrivé encore, vous vous dites, c'est pas possible. Les mecs qui se font virer, ils ont nécessairement vu le mur arriver obligatoirement. Eh ben non, en fait. Parce que vous ne contrôlez pas tout. Voilà, donc moi, c'est le principal conseil que j'aimerais donner aux gens, c'est vous ne contrôlez pas tout, donc restez pilote de votre vie professionnelle et écoutez-vous. On sait bien quand ça ne va pas. On sait bien quand on est fatigué. On sait bien quand on devient aigri. On sait bien quand on n'admire plus, par exemple. Ce sont autant de signes qui doivent nous alerter sur le fait que, il faut changer, il faut faire autre chose. C'est dur.
Revenez dans votre zone de contrôle, hein. Généralement, c'est ce que je dis. Sortez de votre zone de préoccupation et revenez dans votre zone de contrôle. Qu'est-ce que vous contrôlez? Il y a plein de choses que vous ne contrôlez pas, mais qu'est-ce que vous contrôlez? Hein,
Oui,
c'est ça.
absolument. Absolument, je suis d'accord avec ça. Ouais.
Ouais.
Et puis, ouais, enfin, l'autre élément, c'est que c'est pas sur la stabilité qu'on construit une carrière, en fait. Une carrière, elle devient vivante quand elle est accidentelle. Donc, ceux qui s'efforcent de rester stable tout le temps dans un monde qui ne l'est pas s'épuisent. Parce que c'est épuisant, en fait, de rester en équilibre quand tout bouge tout le temps. Donc, il faut accepter l'idée que, une vie professionnelle, c'est une vie de bascule, d'accident, de passage, et que, c'est comme ça qu'elle devient vivante et qu'elle nous transforme, en fait. Mais c'est dur de penser ça.
Bah, c'est
Moi,
plus
je le fais avec le
confortable,
recul qui est le mien aujourd'hui. C'est dur.
Bah, c'est plus facile de se dire que voilà, on va être dans le sens du courant. Et puis une fois en fait qu'on arrive dans le domaine professionnel, parce qu'il y a déjà eu des ruptures avant qu'on arrive dans le monde professionnel, hein, mais il peut y avoir cette illusion effectivement qu'une fois on est rentré notamment dans une grande boîte, hein, il y a plein de choses qui vont s'ouvrir devant nous. Et les boîtes, en fait, alimentent un peu ce truc-là avec les parcours professionnels. Ouais,
Bien
c'est
sûr.
sûr.
Bien sûr, mais vous voyez, il y a un paradoxe, c'est que les entreprises font tout pour vous conserver. Et puis, un jour, sans que vous ne compreniez pourquoi, elle vous reproche un niveau de salaire, elle vous reproche une ancienneté trop importante, et elle met un terme à une collaboration que vous pensiez cimentée. C'est le grand paradoxe du truc. On vous vante effectivement la mobilité interne comme la possibilité de vous construire une vie professionnelle rigoureuse, intéressante, riche, alors qu'un jour, elle se retourne contre vous, cette politique-là. Donc l'entreprise n'est pas loyale. Ne soyons pas loyaux à son égard. On ne
En
lui
tout
doit
cas,
rien, en fait.
loyal quand on est à l'intérieur, mais
Oui, bien sûr, mais
jusqu'à
on
un
ne lui doit
certain
rien.
point, jusqu'à un certain
Moi, j'ai
point.
vu des gens, mais comme vous, sans doute, Martine, dans
Bien
ceux que vous
sûr.
accompagnez, j'ai vu des gens me dire, mais après tout ce que j'ai fait, comment peut-on me faire ça? Enfin, c'est la vie, quoi.
C'est
C'est
ça,
comme
c'est la
ça.
vie.
La loyauté que tu as assumée à l'égard de ton employeur, bah, questionne-la. Est-ce que tu as eu raison, quoi?
J'ai en fait une petite image d'ailleurs que je veux mettre en post LinkedIn. C'était ne laisse pas. Alors c'est en anglais. En anglais, j'essaie de la traduire correctement en français, mais ne laisse pas ta loyauté te mettre en esclavage. Ne deviens pas esclave de ta loyauté. En fait, c'est vraiment
Oui,
ça. Donc,
c'est ça.
mais en fait, c'est notre loyauté qui est en question et qui est en questionnement.
Oui.
C'est
Faut
jusqu'à
pas nous,
quelle
faut pas
loyauté?
qu'elle nous aveugle, quoi. Faut pas
C'est
qu'elle nous
ça.
aveugle.
Faut
On
pas
ne doit
qu'elle
rien
nous
à personne.
laisse tenir en esclavage. Faut pas qu'elle nous fasse faire des choses qui soient pas éthiques pour nous,
Oui.
contre-intuitifs, qui nous amènent à justement la souffrance, hein, professionnelle et personnelle d'ailleurs. Important.
Oui, parce qu'on passe trop de temps au travail pour y être malheureux. Et donc, il y a des décisions à prendre, même si elles semblent difficiles, parce qu'elles créent des déséquilibres.
Ok, allez, pour conclure, peut-être sur une note positive, peut-être deux. Alors, on va sûrement reprendre des choses qu'on s'est dites, hein, mais peut-être là, ceux qui nous écoutent, deux petits tips concrets qui peuvent t'appliquer hyper court, qui peuvent t'appliquer là dès la fin de l'écoute de ce podcast. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Deux petites
Alors,
choses.
juste deux petites phrases clés. La première, c'est que seul, on n'arrive à rien. Et donc, une fois qu'on s'est dit ça, une fois que vous êtes dans une boîte, construisez-vous un réseau, soyez proche des gens, soyez curieux d'eux, intéressez-vous à ce qu'ils font, aidez-les lorsqu'ils sont dans les difficultés. Seul, on n'arrive à rien. La meilleure façon de se préserver des incidents, c'est de se construire quand même un environnement dans le cadre duquel on est apprécié. Premier élément. Et puis, deuxième élément, mais qui s'adresse plutôt au manager, une autre phrase, c'est que quand vous donnez des cacahuètes à des collaborateurs, vous en faites des singes. Alors, ça, pour tous les managers, ça doit être un principe de vie. Donner des cacahuètes, c'est pas forcément donner de l'argent, c'est donner du respect, c'est donner de la valorisation, c'est remercier quand les tâches sont exécutées avec qualité, c'est partager, c'est continuer à les faire évoluer. Donc moi, avec ces deux phrases, je pense qu'on fait une carrière entière. D'un côté, seul on n'arrive à rien. De l'autre, quand vous donnez des cacahuètes à des collaborateurs, vous en faites des singes.
Ok, ben un grand merci Frédéric pour ce podcast. C'était Martine Chaillet, donc j'ai interviewé Frédéric Hivernel. Si vous avez aimé ce podcast, ben, je vous propose de le partager autour de vous. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne de podcast pour ne pas louper les prochains épisodes. Un grand merci, Frédéric.
Avec plaisir. Bonne journée.
Bonne journée.